Bonjour, ravi de vous retrouver dans Grand Bien vous fasse. Bonjour Éric Libiot.
Bonjour Ali.
Grand adepte également du macramé, rédacteur en chef à l'Express. En fin d'émission, nous retrouverons votre petite mythologie d'un objet du quotidien. Qu'avez-vous choisi cette semaine?
Eh bien, cette semaine, aujourd'hui, c'est hommage à la tirelire et à Jacques Prévert.
À tout à l'heure, Éric Libiot. Et ce matin, comme tous les vendredis, je vous propose de prendre un peu de recul pour mieux éclairer notre vie quotidienne. Comment être plus créatif dans sa vie, quel que soit le domaine? Notre invité, Guillaume Lamarre, nous délivrera quelques clés pour booster son esprit créatif dans sa vie personnelle et professionnelle. Même si nous ne sommes pas tous des génies en puissance, nous verrons qu'il existe en chacun de nous une capacité créative qu'il est possible de faire éclore. Nous verrons également quels sont les freins à la créativité, ce pouvoir d'invention qui ne demande qu'à jaillir. Nous attendons vos questions et réactions par courriel. Grand bien vous fasse à radiofrance.com sur notre page Facebook et au standard de France Inter. Adrien et Francesca attendent vos coups de fil au 01 45 24 7000. Et puis dans une poignée de minutes, dans sa chronique La vie des films, notre cinéphile humaniste préféré Guillemette Odissino évoquera le film C'est le bouquet de Jeanne Labrune avec Sandrine Kiberlin.
France Inter, grand bien vous fasse. Ali Rébéi.
Bon, qu'est-ce que c'est comme labo, là?
Métallurgie.
Métallurgie. Allez, bon sang, MacGyver. L'acide s'écoule par cette fissure.
Je vois pas comment on pourrait arrêter ça.
Il faudrait pouvoir colmater cette fissure.
Avec quoi? L'acide sulfurique qui coule là, c'est pas du petit lait?
Avec ça.
Des tablettes de chocolat?
Pour vous, c'est un mélange de lait et de chocolat. Pour une molécule d'acide, c'est du lactose et du saccharose. C12H22O11. C'est une formule très connue. L'acide va réagir avec le sucre, ça va donner du carbone et une espèce de résine. C'est cette résine qui va faire office de mastic. Enfin, on peut toujours essayer. Voilà, vous allez pouvoir commencer à enfoncer le chocolat dans la fissure. Et oh, Spencer!
Oui, je sais, je dois faire en sorte que l'acide ne coule pas sur ma main.
Et ouais.
Le très créatif MacGyver. MacGyver, série kitsch et culte des années 1980. Et ce matin, pour nous aider à être plus créatifs dans notre vie, un invité, Guillaume Lamarre. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes diplômé de Sciences Po et en littérature américaine. Et vous publiez un ouvrage absolument passionnant, qui est également un bel objet, La Voix du Créatif, publié aux éditions Pyramide. Un mot sur le titre de votre ouvrage, La Voix du Créatif, voix V-O-I-E, qui se traduit par Tao en chinois.
Oui, c'est mon inspiration en fait est cinématographique. En fait, je me suis inspiré d'un film de Jim Jarmusch qui avec Forest Whitaker qui s'appelle La Voix du Créatif, enfin La Voix du Samouraï pour le coup. Où en fait pendant tout le long l'acteur principal est un tueur à gages qui respecte la voix du samouraï et il lit tout le long du film ses préceptes et je me suis inspiré en fait de ce film pour écrire ce livre.
Et votre livre ressemble un peu à un guide du samouraï.
Un petit peu, oui, c'est l'idée.
Alors votre manuel pratique est truffé d'exemples.
Tout à fait.
C'est pas simplement un ouvrage théorique.
Non, absolument pas. Moi, ce qui m'inspire, en fait, c'est vraiment les créatifs, quel que soit leur secteur d'intervention. Je me suis aperçu que quand on examinait la vie des créatifs, c'était un peu comme si on racontait la vie de super-héros. En fait, on raconte, vous avez un t-shirt de Spider-Man, c'est exactement ça. C'est quand il y a toujours un déclenchement, il y a toujours un moment où le héros bascule et devient plus créatif. Il décide de faire le choix de se consacrer à son art, à son métier, à son activité. Et du coup, il acquiert une espèce de super pouvoir comme ça et il développe des capacités qu'on a tous, mais qui ne demandent qu'à être développées.
Et le film que vous évoquiez, c'est
Ghost Dog, tout à fait.
De Jim Jarmusch. Alors, la créativité, c'est le pouvoir de création, d'invention, synonyme inventivité, imagination, fertilité. Alors, vous partez d'un constat, nous sommes tous potentiellement créatifs, quel que soit le domaine. Et puis pour vous, la créativité ne se cantonne pas aux arts ou à la littérature.
Absolument. On est tous créatifs au départ. On est tous aussi créatifs que les enfants, en fait. Quand on est plus jeune, on n'hésite pas à essayer des choses, à vider la boîte de Lego, pardon de citer la marque, mais en tous les cas de construire plein de choses. On n'a pas peur de l'échec. En fait, la créativité, c'est une science de la résilience. C'est une capacité à se tromper et à refaire derrière. Donc du coup, oui, c'est quelque chose qu'on a tous en nous et qu'on peut développer dans notre activité professionnelle. On est à l'heure de l'économie de l'attention. L'attention, c'est pas juste du temps de cerveau disponible. En fait, l'attention, le secret de l'économie de l'attention, c'est qu'on l'échange contre notre propre attention. Donc, toute l'attention que vous mettrez dans votre métier, dans la façon dont vous préparez votre émission, dont les politiciens préparent leur campagne ou leur discours, ou un écrivain prépare son roman, toute cette attention-là, on y est sensible en tant que public. Et du coup, on va réagir en octroyant la nôtre.
Alors j'aimerais citer le célèbre psychologue américain Abraham Maslow qui disait qu'un excellent potage prouve plus de créativité qu'une mauvaise peinture.
Tout à fait. Mais ça, c'est très important. Enfin, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut mettre dans la vie quotidienne. Vous parlez de potage. Moi, je suis fasciné par un personnage comme Alain Passard, le chef cuisinier de l'Arpège, qui est un créatif, à mon avis, absolument exceptionnel. Et sa façon de travailler est là. Elle est dans l'oubli du geste, dans le travail des légumes le plus simplement possible. Et c'est très intéressant pour ça.
Vous êtes d'accord avec Albert Einstein qui disait que l'imagination est plus importante que le savoir?
Il y a de plus en plus de théoriciens qui disent que la véritable intelligence, c'est la capacité d'imagination, justement. Et cette capacité d'imagination au sens large, en fait, c'est la capacité de l'empathie. L'art est un acte de libération. L'innovation, le design sont des actes d'empathie. Et l'imagination en fait partie, en effet.
Comment être plus créatif dans tous les domaines de sa vie? Nous attendons vos coups de fil au 01 45 24 7000. Et nous accueillons Lila. Bienvenue dans l'émission. Vous êtes plus de Paris.
Oui, de Paris, oui.
Vous êtes enseignante à l'hôpital.
Oui.
Alors, la créativité, c'est votre outil de travail?
Oui.
Alors, racontez-nous tout.
Alors, on a, nous, enseignants à l'hôpital et avec les enfants en situation de handicap, une certaine forme de liberté pédagogique, je dirais, qui fait que c'est plus... on est moins restreint et contraint d'avoir les livrets, les contrôles, toutes les évaluations, de suivre le programme à la lettre, puisqu'il s'agit surtout d'intégrer en fait la scolarité et la pédagogie dans le soin. Parce qu'on travaille avec des médecins, des éducateurs, des animateurs, et du coup, ça nous permet, nous, de pouvoir trouver des moyens, tous les moyens possibles, dont l'art, pour que les enfants s'expriment, en fait. Et du coup, de toute façon, ils arrivent au final à s'exprimer, à écrire, à utiliser la langue, le savoir, les mathématiques, enfin tout ce qu'ils apprennent à l'école, mais ils fonctionnent par projet, et si à la fin, il n'y a rien, c'est-à-dire il n'y a pas de finalité, pour eux ça perd du sens. Donc ce qui leur plaît de manière assez instinctive, et c'est ce qui me fascine chez eux et dans mon métier, c'est le naturel avec lequel, ce que disait l'invité juste avant que je prenne la parole, c'est naturel chez l'enfant, et je crois que c'est même vital, quoi. Donc du coup je me fais énormément plaisir, peut-être plus qu'eux, je sais pas trop.
Et puis ils vous forcent à être créative, Lila, ces enfants.
Comment ?
Ils vous forcent à être créatifs, ces enfants, Lila.
C'est ça. Ils me forcent surtout à trouver des moyens, à leur donner les moyens à eux d'être créatifs. Donc, du coup, je suis obligée, moi, de trouver des projets intéressants, des idées, et avec les enfants, c'est assez instantané, c'est-à-dire ça marche tout de suite, on leur propose un truc, ils le saisissent, ça marche. Si ça marche pas, faut vite être réactif pour trouver autre chose, parce que, on a raté, enfin, pas raté la séance, mais il y a quelque chose d'assez instantané, et du coup, ça nous oblige à être tout de suite dans le concret, là, pour vous donner un exemple. On travaille, on a plein de projets à l'hôpital, et on a la chance d'avoir les moyens et beaucoup de structures annexes et des associations qui interviennent, et on essaye tous les mois avec la médiathèque, on leur propose, on a un projet autour du mot, et donc tous les mois on change de mot, on a un mot, et avec ce mot-là on crée. On écrit, on dessine, on illustre, et après on collecte tout ça, et puis on fait des expositions.
Guillaume Lamar.
Oui, merci pour votre. Enfin, il y a plein de choses intéressantes dans votre intervention. Il faut partir du principe en fait qu'on est tous des constructions narratives. En fait, on est dans une rue, dans un quartier, dans une ville, dans un pays, sur une planète. Tout ça sont des étiquettes narratives. On hérite d'ancêtres, on a des parents. Enfin voilà, tout ça nous raconte une histoire et nous fait nous raconter une histoire sur nous-mêmes. L'avantage pour les enfants, et c'est ce qui nous différencie bien sûr, c'est que eux, ce terrain est complètement vierge. Donc ils n'ont pas toutes ces résistances qu'on se crée au fil de l'eau. Après, il y a aussi notre système éducatif qui est pas très aidant par rapport à la créativité, et c'est ce que vous expliquiez. Le système des notes est particulièrement frustrant, particulièrement cassant, et aide pas à prendre un esprit d'initiative. C'est assez compliqué pour ça. J'ai un très bon exemple pour ça. il y a un chef d'orchestre qui s'appelle Benjamin Sander qui enseigne dans une très grande école de musique à Londres. Et en fait, il a remarqué que tous ses élèves au début de l'année étaient particulièrement stressés. Et pour les déstresser, en fait, il leur dit à la première séance, il leur dit vous allez tous avoir 20 sur 20. Mais vous allez tous avoir 20 sur 20 à une seule condition, c'est que vous écriviez une lettre datée de la fin de l'année en nous expliquant pourquoi vous avez eu 20 sur 20. Quelles habitudes vous avez mis en place? Qu'est-ce qui a changé pour vous? Et qu'est-ce que ça va faire dans votre carrière plus tard? Eh bien, mine de rien, en faisant ça, ça permet de se détacher, bien sûr, de cette notion de note qui est punitive et qui empêche toute prise d'initiative. Et puis, c'est surtout que ça donne à l'élève la notice, ce qu'il va devoir faire pour réussir.
Merci beaucoup, Lila, de nous avoir appelé. Elle se fait des films tous les jours dans sa vie quotidienne. Guillemette Odissino.
La vie des films.
T'as été formidable, tu sais.
Bon, allez, faut pas rester là, voyons,
Corneille.
Va surveiller l'Afrique
AC. Guillemette Odissino.
Ce qui compte, c'est que ça se soit bien terminé.
Bonjour Guillemette Odissino.
Bonjour Ali.
Vous m'avez manqué.
Et oui. Oh, aussi.
Bon, alors.
Et en fait, on se voit en dehors, hein, faut le dire aux gens.
Un film illustre à merveille, selon vous, notre sujet du jour. C'est Le Bouquet de Jeanne Labrune, avec Sandrine Kiberlin, un film sorti il y a une quinzaine d'années.
Oui, et alors, je suis vraiment ravie, parce que la dame passionnante qu'on vient d'entendre s'appelle Lila. Vous, Guillaume, vous venez de parler d'un chef d'orchestre. Ben, ça fait déjà deux choses, plus ou moins, qui sont dans C'est le bouquet. Une fleur, enfin des fleurs, et un chef d'orchestre. Parce que C'est le bouquet, c'est absolument impossible à raconter. C'est d'ailleurs là d'où vient le plaisir du film. Mais en gros, Sandrine Kiberlin est dans sa baignoire, le téléphone sonne. Et ben, c'est Emmanuel Kirsch. Alors, on ne sait pas qui c'est, hein, Emmanuel Kirsch, mais c'est un chef d'orchestre. Et il téléphone à 7h du mat pour poser une question absolument absurde, alors qu'elle ne l'a pas vu depuis 15 ans. Mais c'est scandaleux. Jean-Pierre Darroussin, son mari, ça l'énerve pas suffisamment. Donc du coup, elle lui dit qu'il est un peu mou, il devient mou. Et tout ça s'enchaîne. Et après, Emmanuel Kirsch, quand même gêné d'avoir appelé à 7h du mat, envoie un bouquet à Sandrine Kiberlin, qu'il n'a toujours pas vu depuis 15 ans, hein, et tout ça se réenchaîne. C'est le bouquet, c'est l'histoire de gens qui se posent des questions qui normalement n'ont pas énormément d'importance, mais qui aussi attachent beaucoup d'importance aux mots. Alors par exemple, Ali, est-ce que le Mekong coule en Chine?
Joker.
Voilà. Eh bien, entre Jean-Claude Brialy, Sandrine Kiberlin, Jean-Pierre Darroussin, personne ne sait vraiment si le Mekong coule en Chine. Bien, c'est avec Jacques
Labrou. Joker.
Voilà.
Comme le patron. Hein.
Donc je suis ravie, ça marche. Donc vous voyez comme quoi Jeanne Labrune pose des questions finalement assez fondamentales. Et Jeanne Labrune dans ce film, elle joue incroyablement avec les mots. Et de temps en temps, il y a quand même des mots. Quand on les entend, ça a l'air de rien, mais ça fait son petit effet.
Je te dis tout. J'ai su, c'est un Américain qui est en France pour pénétrer le marché européen.
Non mais Edith, tu te rends compte de ce que tu me dis?
Je l'ai fait pour toi.
Attends, tu te moques de moi là ou quoi?
Je t'aime beaucoup.
Mais c'est pas une raison pour faire des choses pareilles.
Tu peux le lui dire, y a rien de mal à ça.
Elle me dit qu'elle a sucé un Américain qui venait pour pénétrer le marché européen.
Ah oui? Et alors?
Comment ça, et alors? Mais c'est dégueulasse! Ah, quelle horreur!
Bah tu deviens fou, Edith a le droit de sucer qui elle veut. Même un Américain d'ailleurs, pourquoi pas?
Les Américains sont des hommes comme les autres.
Voilà. Donc je remercie le réalisateur Jérôme Boulet qui a trouvé l'extrait qui donne vraiment fondamentalement envie de voir ce film, nous sommes bien d'accord. Donc les mots c'est important, surtout quand on joue avec, qu'on est créatif avec. Et là on a entendu les trois acteurs principaux de C'est le bouquet, donc Jean-Pierre Darroussin dont on pourrait dire que c'est un brin de lavande, légèrement agacé, Sandrine Kiberlin. Sandrine Kiberlin, il faut le dire, hein, c'est quand même l'une de nos plus grandes actrices de comédie, ouais. De fantaisie. D'ailleurs, le film de Jeanne Labrune ne s'appelle pas le film, mais fantaisie de Jeanne Labrune. Donc, Sandrine Kiberlin, ce serait une jonquille. Et on a entendu la magnifique, merveilleuse Dominique Blanc, ô combien grande comédienne, qui, elle, pourrait être un lys blanc ou un glaïeul. Et je ne dis pas exactement, mais dans le film, Dominique Blanc, elle est très cintrée, dans un tailleur très serré. Elle a une coupe au carré.
Pas très créative.
En tout cas, un peu engoncée. Mais elle ne cesse de répéter que c'est bien de connaître Kant pour vendre des tracteurs. Et bien à la fin, elle va se mettre enfin à lire vraiment Kant, tranquillement, démaquillée, sur son canapé. Et en fait, ça donne envie d'aller bouquiner, d'être créatif et d'acheter des fleurs à un inconnu. C'est l'effet impulse du film de Jeanne Labrune.
Et vous m'avez donné envie de revoir C'est le bouquet en DVD ou Blu-ray. Je ne sais pas si le Blu-ray existe ou pas.
En tout cas, en VOD, il existe.
Voilà. Merci beaucoup, Guillemette Odissino. La vie des films, c'est tous les vendredis dans Grand Bien vous fasse. Une émission préparée par Laure Grand-Besançon et Lorraine Bess avec l'aide de Clara Marlio. Et c'est réalisé par Jérôme Boulet.
Ali Rébéi sur France Inter.
Ça me fait froid dans le dos. Je perds mes moyens, j'ai plus de mots. Quand dans ce grand bain, ce bain de foule, je sens soudain que je coule. Je retiens mon souffle, je me retiens. J'y peux rien, c'est physique.
Junior qui interprétait Panique.
Quand le moment est venu,
Grand Bien vous fasse,
l'heure est arrivée.
Sur France Inter.
10h25, comment être plus créatif dans sa vie de tous les jours? C'est la question que je pose à notre invité, Guillaume Lamarre, qui publie La Voix du Créatif, publié chez Pyramide, une petite maison d'édition qui a fait un excellent travail éditorial. Et il est temps d'écouter un micro-trottoir réalisé cette semaine dans les rues de Paris.
La créativité, voilà, c'est une question compliquée.
Je pense que c'est essentiel, même dans tout projet professionnel, d'être créatif.
En tout cas, il n'y a pas de recherche de créativité en elle-même. Enfin, c'est la créativité qui vient. Il n'y a pas d'intentionnalité là-dessus.
Je peux inventer des recettes, je peux faire des dessins, je peux colorier, je peux faire des choses comme ça.
Dernièrement, je me suis amusé à faire un molki. C'était juste un cadeau, voilà. J'ai créé un molki avec des piquets de tomates et en récupérant des caisses de vin qui étaient usagées. Là, je me suis senti créatif.
Après, c'est une question d'acquis. Je pense que c'est par rapport à son éducation, par rapport à ce qu'on peut découvrir.
La créativité, pour moi, c'est mettre en forme ses sentiments. C'est une espèce d'exutoire.
Des fois, penser plus créatif permet de justement gagner du temps ou gagner en efficacité.
Parfois, la contrainte est source de créativité.
Et peut-être révolutionner des méthodes qui sont peut-être un peu obsolètes.
Il y a des jours où on a envie, on se sent pousser des ailes. Ça m'arrive de me sentir créatif.
Propos recueillis cette semaine dans les rues de Paris. Petit commentaire, Guillaume Lamarre. Alors le molki, je le précise, c'est un jeu de quilles. Voilà.
Il y a un des interviewés qui dit que La créativité vient comme ça, qu'il ne faut pas la rechercher. C'est complètement l'inverse, en fait. Il y a l'artiste Chuck Close qui dit qu'il laisse l'inspiration aux amateurs et que le reste d'entre eux se pointent le matin et vont bosser. En fait, la créativité, elle vient par l'action, elle vient par le travail, elle vient en faisant les choses. Et c'est une idée un peu romanesque de penser qu'elle va nous tomber dessus tout cuit.
Éric Libio. Oui, c'est ce qu'a toujours dit Georges Simenon, qui se mettait à sa table tous les matins vers 4-5 heures du matin, il était insomniaque, et qui travaillait, et qu'il attendait que ça vienne, et il était pas dans l'espèce de créativité qui lui tombe dessus. C'est vraiment un travail. Et ce que dit l'auditeur aussi, un auditeur sur la contrainte, la créativité vient de la contrainte, c'est aussi dans le même ordre d'idée. Voilà, faut s'astreindre à ce genre de choses pour être créatif.
Guillemette Audicino.
Je pourrais juste poser une question, parce que comme Éric parle de Georges Simenon, enfin, c'est quoi la différence entre un créatif et un créateur?
Ah,
nous avons deux heures pour répondre à cette question.
Oui, non, mais maintenant le terme créatif, c'est un peu mis à toutes les sauces. Mais c'est quoi la différence avec un créateur?
Ouais, c'est un peu ce que je fais pas vraiment la différence entre les deux dans mon ouvrage. Comme je disais au début, un créateur, je pense que vous voulez dire quelqu'un qui fait plutôt de l'art, enfin quelque chose qui va.
Ou un créateur de mode, enfin.
C'est peut-être
tout
un état d'esprit le créatif. Oui, c'est être dans un moment, une ambiance, un mouvement. Et le créateur, il y a peut-être un côté un peu œuvre, un peu
artistique. Tout à fait. Mais comme je disais, l'art en fait, la différence entre l'art et le design ou l'innovation ou la création telle qu'on l'entend aujourd'hui, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que l'art est vraiment un acte de libération. C'est-à-dire qu'on exprime quelque chose qu'on a en soi et on a besoin de le faire sortir d'une manière ou d'une autre. Alors que l'innovation, la création, donc la créativité, enfin la créativité joue dans les deux, hein. Mais la création est plus un acte d'empathie. En fait, on fait attention à qui on s'adresse. Et du coup, on crée en fonction de ça. Et la différence, elle est vraiment là.
On s'adapte.
On s'adapte, plus, si oui. On veut, on s'adapte. Oui. C'est-à-dire qu'on le fait vraiment dans un élan de en faisant attention à l'autre.
Guillaume Lamarre, au commencement de l'esprit créatif, un mot simple en trois lettres, oui. Et dans votre ouvrage, vous préconisez, pour exercer son esprit créatif, un exercice tout simple. Par exemple, choisir une personne de son entourage personnel, scolaire, professionnel, et s'amuser à répondre positivement à chacune de ses demandes pendant un temps donné. Vous appelez ça l'exercice du oui et.
Oui, non, mais il y a un super film avec Jim Carrey,
Man, hein.
Ouais, qui s'appelle Yes Man. Bon, enfin bon, le oui, c'est quand on fait du théâtre d'improvisation, c'est quelque chose de très important. Si vous montez sur scène avec un partenaire et vous ne lui dites pas oui à ce qu'il vous propose, la pièce s'arrête immédiatement et vous pouvez redescendre dans le public. Donc en fait, le fait de dire oui, ça permet d'engager quelque chose et d'accepter. Alors attention, c'est pas un oui de renoncement. J'aime bien citer l'écrivain Jacques Lucéran, qui était un écrivain résistant, qui a perdu la vue à l'âge de 8 ans. Et en fait, très vite, il s'est mis à voir alors qu'il était aveugle. Et c'est, son handicap lui a permis de faire plein de choses. Il a été un résistant, il a monté un très grand réseau, il a survécu à Buchenwald. Enfin, c'est quelqu'un qui est assez exceptionnel. Et il a accepté son sort, il a accepté ce qui lui arrivait et il en a fait quelque chose de plus grand, de plus fort. Donc vraiment, cette notion d'accepter, c'est David Lynch qui le dit aussi, on ne peut pas être créatif si on est cynique, si on est négatif.
Guillemette Audicino.
Oh, ça fait plaisir. Mais c'est vrai, c'est la notion aussi un peu de candeur, enfin de regarder le monde comme une fontaine.
Exactement.
De jouvence ou d'ailleurs aussi.
Ouais. Et à propos de Jacques Lucéran, je signale l'ouvrage de Jérôme Garcin que consacré à Jacques Lucéran, ça s'appelle Le Voyant.
Je sais que les hommes sont nos ennemis, mais il y a quelque chose en eux ils ne se contentent pas de survivre, ils inventent, ils créent. Regardez ce qu'ils font en cuisine.
Comment vous expliquer? La grande cuisine, c'est de la musique pour les sens, des couleurs pour le palais. L'excellence à tous les niveaux. Il suffit d'en avoir conscience et de prendre le temps de savourer.
Chaque saveur était unique. Mais si vous la combiniez à une autre, vous obteniez quelque chose de totalement nouveau.
Le très créatif Ratatouille dans le film produit par le studio Pixar. Alors, j'aimerais que vous évoquiez le brain trust qu'on retrouve dans la manière de travailler du studio Pixar. C'est quoi le brain trust? C'est un état d'esprit créatif positif.
Tout à fait. En fait, Pixar sont assez exceptionnels. La difficulté dans toute l'industrie créative, qu'elle soit cinématographique, publicitaire, musicale, c'est que même s'il y a une injonction au niveau des entreprises à être plus créatif, à être innovant, c'est très compliqué de créer les conditions en fait pour que la créativité s'épanouisse dans un lieu et surtout dans une organisation comme une entreprise. Du coup, Pixar, ils sont assez maîtres là-dedans. Ils ont réussi à mettre en place un certain nombre de méthodes, un certain nombre de techniques pour faciliter la créativité. Il y a des enjeux énormes au moment de l'écriture des films, que ça soit budgétaire, il y a des enjeux d'ego aussi qui sont très forts, il y a des personnalités très fortes au sein de Pixar. Et du coup, ils ont un rendez-vous assez régulier qui s'appelle le Brain Trust. Il y a Brain dedans, donc il y a cerveau, et il y a Trust, c'est la confiance. Ce sont des réunions où on examine en fait tous les projets qui sont en cours et où chacun va essayer d'aider l'autre dans l'avancée du projet. Du coup, ce sont les films qui sont remis en question et non pas les réalisateurs. Et du coup, à chaque fois qu'un réalisateur en aide un autre, ça le fait avancer lui-même. Et puis ce qui est très important, c'est qu'ils font appel à ce qu'on appelle donc la candeur, ce que vous évoquiez juste avant. C'est-à-dire que cette capacité à accepter la critique, même si c'est très compliqué, et à essayer d'en faire quelque chose de positif.
Guy Métodicino.
Mais c'est vrai que c'est un système assez fabuleux, parce qu'il y a aussi un système effectivement de grande tolérance hein, par rapport aux idées des autres et à la folie des autres, puisque pour quand même finir par accoucher de l'histoire d'un rat cuisinier, il faut quand même à un moment qu'autour de cette table, il y ait quand même énormément de tolérance et de ouais, ok, c'est une bonne idée, pourquoi pas. Enfin, donc c'est fou ce qu'ils ont pu créer. Ouais. En étant effectivement complètement, enfin, en ouvrant complètement la boîte à idées, mais que j'imagine les petits copains réalisateurs d'en face aient dit, écoute, pourquoi pas, on va aussi faire un film dans le cerveau d'une petite fille. Ouais. Eh bien, d'accord. Enfin, ce oui, en fait.
Et ça s'appelle Vice Versa.
Et ça s'appelle Vice Versa, ce film absolument incroyable. Chaque fois qu'un film Pixar sort maintenant, on dit, excusez-moi, chers auditeurs, mais on dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fumé pour penser à un truc pareil? Ben non, ils n'ont pas dû fumer, ils ont juste fait ces réunions.
C'est Brain Trust.
Trust où tout le monde fait confiance à l'imaginaire de l'autre.
Éric Libio.
Oui, ça tient aussi à la particularité d'un studio comme Pixar, dirigé par John Lasseter, qui est lui-même metteur en scène, scénariste, créatif, à l'inverse des autres grands studios où à leur tête, il y a plutôt des hommes d'affaires et des comptables, et que c'est toute l'intelligence de Disney, justement, d'avoir mis à la tête de Pixar, quelqu'un qui peut générer ce type de créativité.
C'est ce qu'on retrouve aussi chez Apple, par exemple, où Johnny Ives est maintenant à la tête quasiment.
Donc les créatifs peuvent être des grands patrons.
Exactement. Et c'est ce que Steve Jobs avait compris.
C'est le designer.
Oui, c'est le designer des produits Apple. C'est ce que Steve Jobs avait compris très tôt, c'est-à-dire que les premiers arrivés aux réunions, c'était les designers et les ingénieurs venaient après. Et en fait, les ingénieurs se pliaient au désir des créateurs. Donc c'est très important.
Alors Guillaume Lamar, pour devenir davantage créatif, il est bon de s'oublier, d'imaginer que l'on est quelqu'un d'autre, un peu comme les Beatles en 1967. Qu'est-ce qui se passe en 1967 ?
En 67, les Beatles terminent leur fameuse tournée, là, toutes ces images que nous avons pu voir, où ils sont dans les stades de baseball, par exemple, aux États-Unis, où ils s'entendent même pas jouer, où c'est incroyable, et ils sont lessivés, ils sont complètement à bout, ils ont tous envie d'arrêter, en fait. Et McCartney, c'est là-dessus qui est assez génial, il est très en lien avec tout le monde de l'art, avec tout le... Et du coup, il a cette idée de donner un nouveau nom aux Beatles, en fait, et de les appeler les Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Et du coup, ils vont enregistrer cet album-là, en se détachant complètement de ce qu'ils ont fait auparavant et de ce qu'on attend d'eux, en fait. C'est toute la difficulté du deuxième album. Enfin, là, c'était pas le deuxième album des Beatles, hein, je vous rassure. Mais c'est toute cette difficulté-là. J'ai la même pour écrire le deuxième bouquin, en fait. C'est toujours très compliqué, après avoir écrit quelque chose, de revenir. Et du coup, il faut repartir de l'esprit du débutant. Et le meilleur moyen, c'est de changer de nom, de changer de personnalité et d'essayer de voir ça sous un autre angle.
Comment on applique ça dans sa vie quotidienne quand on n'est pas un Beatles ?
On choisit une personnalité qui nous plaît ou qui nous plaît pas, d'ailleurs. Et on imagine comment Tony Parker ferait, par exemple, pour pour si on a une page de pub à créer ou un article à écrire. On prend un point de vue qui est complètement en dehors d'une autre.
Guillemette Odissino.
Mais bon, c'est vrai que c'est une très bonne idée tout d'un coup de se dire tiens, je suis un grand joueur de basket de 1m80, comment je réagirais dans ces cas-là? Mais on peut aussi juste casser des petites choses ou mettre de la fantaisie, devenir fantasque pendant ne serait-ce que 10 minutes et voir ce que ça entraîne. Pardon, mais je reprends ou offrir un bouquet à quelqu'un qu'on connaît pas. Exactement. Ou passer un coup de fil au hasard, ou dire bonjour à une dame dans un bistrot qu'on trouve jolie, lui dire qu'elle est belle, je sais pas. Enfin, ouais. Tout d'un coup, casser avec un petit détail. Là, évidemment, ça ne donne pas d'objet créé sur le moment, mais ça crée des situations. Je pense que aussi être créatif, juste dans des situations et dans des rencontres, ça peut ouvrir de grandes portes dans nos vies. Fait.
Et à propos de l'année 1967 et de Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band, je vous conseille un papier dans le Figaro du jour consacré donc à cette année 1967. À suivre, la fausse pub du vendredi de François Audouin. Et vous pouvez continuer à nous appeler au 01 45 24 7000.
France Inter, grand bien vous fasse, Ali Rebbi. I fall off my chair and I'm wondering how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you. And I'm wondering what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face. Losing control, yeah.
Killers Will, issu de la BO de Reservoir Dogs, le film de Tarantino.
France Inter, grand bien vous fasse.
Votre vie de famille est monotone et répétitive. Vous trouvez vos obligations ménagères et parentales rébarbatives. Retrouvez du temps pour vous en mettant une bonne dose de créativité dans votre vie avec la collection Creative Housewife, comment compiler ses tâches ménagères. Utilisation du mode délicat de votre machine à laver pour nettoyer en même temps linge et enfant. Fabrication d'un pull antistatique pour éliminer la poussière à chaque fois que votre rejeton se jette par terre. Grâce à de nombreux conseils et astuces, vous condensez ménage, entretien de votre maison et des enfants en 2 ou 3 tâches seulement. Cette semaine, le premier numéro, la trottitondeuse, comment installer une lame sur le tricycle de son chérubin pour l'entretien automatique de la pelouse et son kit de montage pour 199 € seulement chez votre marchand de journaux. Creative Housewife, une collection. Aïe aïe aïe.
La fausse pub du vendredi de François Audouin, 10h41, comment être plus créatif dans sa vie de tous les jours? C'est la question que je pose à notre invité Guillaume Lamar qui publie La Voix du Créatif, publié chez Pyramide. Alors, pourquoi est-il si bon de se trouver un mentor qui éclaire votre route pour être un peu plus créatif? Le mentor, c'est le guide, le conseiller sage et expérimenté, un peu comme notre complice du vendredi, Éric Thibiot.
C'est essentiel. Enfin, c'est essentiel de choisir ses héros. C'est très important.
C'est mon héros d'ailleurs.
Il s'en étouffe.
C'est important de choisir des mentors, des modèles en fait, des gens que l'on admire, et du coup d'étudier ce qu'ils ont fait.
Rend plus créatif ?
Pourquoi ça rend plus ? Parce que en fait tout ça fonctionne comme une espèce de compost en fait. Il faut se nourrir de choses. La créativité, c'est quoi ? C'est réussir à prendre d'anciens éléments, de les mélanger, de les associer d'une façon inattendue, ingénieuse, et réussir à surprendre en créant quelque chose de nouveau.
Éric Libio. Oui, parce que je pense que, enfin, c'est très gentil. Je suis très touché pour tout ce que tu dis. Je suis un peu ému et stressé, mais non. Je crois que par rapport au mentor, il y a à la fois l'imitation et la singularité, c'est-à-dire imiter parce qu'on trouve la personne admirable pour mille raisons, et à la fois trouver sa propre singularité qui serait dans les deux. Et je pense que il y a ça dans le rapport qu'on peut avoir avec un mentor.
Exactement. Le je suis désolé, c'est un exemple de football, mais Pep Guardiola est pour moi un modèle là-dessus. Quand il décide d'arrêter sa carrière de footballeur, il part s'entraîner dans un club obscur du Mexique, juste pour pouvoir être entraîné par quelqu'un qu'il admire. Et il commence déjà à s'imprégner. Ensuite, il va faire un tour du monde entier où il va rencontrer tous ses plus grands héros, en fait, dont Bielsa, par exemple. Des Argentins, pour la majeure partie, c'est des gens en fait qui avaient une vision du jeu, qui savaient qu'il y avait une philosophie du football. Et du coup, Guardiola va complètement s'inspirer de tout ça. À côté de ça, il va faire sa formation, comme tous les grands entraîneurs à Madrid, mais il va se nourrir de ça. Donc en fait, c'est choisir ses héros, se mettre dans leur pas, réussir à s'imprégner de ce qu'ils ont fait, essayer de voir qui sont les héros de ces héros, pour essayer de comprendre et retirer le fil, en fait.
Mais attention, il ne s'agit pas de se mettre dans une position d'idolâtrie aveugle.
Absolument.
Guillemette Odissino.
Mais est-ce que aussi on se choisit pas des héros pour se donner la force d'oser ?
Tout à fait.
C'est-à-dire on se dit, oh, lui, il l'a fait, quoi.
Exactement.
Lui, il a dit que, ok, un trait blanc sur une toile noire, ben ça pouvait être de l'art, tiens, allez, pareil. Enfin, je pense que c'est aussi important, parce que ça débloque des freins, quoi.
Exactement.
Quand on n'est pas sûr de que notre créativité soit...
Surtout qu'il faut bien se dire que ces personnalités-là ont subi la même chose que nous. Enfin, c'est-à-dire qu'ils ont eu les mêmes peurs, ils ont eu la même peur de rater, ils ont été confrontés aussi à des échecs, ils ont le regard des autres, leur propre regard. Donc ils ont réussi à dépasser tout ça. Donc c'est pour ça que c'est très important de les prendre en exemple.
Alors Guillaume Lamar, pour développer sa créativité, il est bon de se mettre dans la peau d'un extraterrestre qui vient d'atterrir sur Terre. C'est pourquoi ? C'est pour adopter un regard neuf sur les choses ?
C'est l'idée d'être... C'est Paul Smith, le couturier, qui dit ça. Enfin, c'est-à-dire que l'inspiration est partout. Si vous ne la voyez pas, c'est que vous regardez mal. Paul Smith, il est assez génial. Il se lève à 5h du matin. Quand il est à Londres, il va nager. Mais quand il est à Paris ou dans une autre capitale, il prend son vélo et il fait le tour de la capitale quand il n'y a personne dedans. Et en fait, il s'aperçoit de tout un tas de choses. Il s'aperçoit de géométries différentes. Il perçoit des choses qui n'ont rien à voir. Et ça lui permet justement d'avoir ce regard d'explorateur. J'aime bien citer Alastair Humphreys aussi, qui est un explorateur qui a fait des grands voyages en vélo. Il a fait un tour du monde en vélo. Mais il dit que la plus grande exploration, c'est de faire des micro-aventures, en fait. De partir un soir, juste aller dormir à la Belle Étoile en prenant le train pour une destination qu'on connaît pas, et d'aller faire quelque chose de totalement différent.
Et vous préconisez donc de devenir des explorateurs du quotidien?
Oui, de regarder les choses comme si on les regardait pour la première fois. D'essayer de voir un peu le comportement des autres. Quand vous allez au café, plutôt que de dégainer votre smartphone, d'essayer un peu de regarder comment les gens consomment le café. C'est une attitude d'écrivain aussi. C'est une attitude de prélever les dialogues, regarder ce qui se passe. C'est le meilleur moyen de comprendre comment fonctionne.
Et vous le rappelez dans votre ouvrage, la créativité, c'est un art de l'observation, une pratique de l'attention. Et il est bon de faire silence en soi pour se connecter à sa nature essentielle. Faire silence, c'est ne plus écouter les sollicitations externes.
Oui, d'une façon assez générale, le bruit ambiant, les réseaux sociaux, Internet, dans notre pratique quotidienne, il faut éviter. Il faut éviter le matin. Il faut faire attention à l'écologie numérique, en fait. À l'écologie, il faut la mettre en place pour nous-mêmes et essayer d'éviter d'être pollué par tous ces sons. C'est assez compliqué quand on va sur les réseaux sociaux et qu'on a quelque chose à produire. On voit toujours sur le profil Facebook ou sur Twitter quelqu'un qui a fait quelque chose de mieux que nous. Et du coup, si on doit commencer quelque chose, c'est toujours assez compliqué de se polluer avec ce genre de choses.
Et l'inattention, c'est l'ennemi de l'esprit créatif?
De toute façon, il faut se consacrer à sa tâche. Il y a un moment où il faut mettre les mains dans le moteur, il faut travailler. Et donc forcément, il y a une grande période de concentration. C'est Kafka qui dit ça. Il faut se mettre à sa table, attendre que le monde arrive. Même Jean le dit aussi. Capter la vibration du monde, ça veut dire qu'on est à un moment en position d'écoute. Et c'est notre nature profonde. On est avant tout une connaissance des choses.
À propos de mains dans le moteur, vous citez le philosophe mécanicien Matthew B. Crawford qui s'intéresse beaucoup à cette écologie de l'attention.
Tout à fait, tout à fait. C'est du temps qu'on nous vole réellement. Hein. Les réseaux sociaux, le web, les actualités aussi sont vraiment du temps qu'on nous vole et qui nous empêchent de faire autre chose. Il n'y a pas de raccourci. On a l'impression, en publiant sur Instagram des photos qui ont été filtrées, qui sont jolies, qu'on est un artiste, ça remplace pas le fait de travailler vraiment.
Bonjour Virginie.
Bonjour Ali.
Vous appelez de Vichy, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse.
Merci.
Alors est-ce que vous développez votre esprit créatif au quotidien ?
Eh bien, visiblement oui. Alors c'est marrant parce que j'ai toujours considéré que je n'étais pas créative. Enfant, j'ai appris à jouer de la musique avec un professeur, je sais lire une partition. Mais si on me retire à la partition, je ne sais pas jouer. Mmh. Et même en cuisine, voilà, j'adore cuisiner, mais sans livre de recettes, je ne sais pas faire. Et la vie est parfois drôle, hein. Elle m'a amenée à faire une art-thérapie de 3 ans. Et la première chose que j'ai dit à la thérapeute, c'est « Mais moi, je ne sais pas dessiner, hein. Je ne suis pas une artiste. » Et je lui ai fait confiance, elle a su trouver les mots pour que je lui fasse confiance. Et je me suis rendu compte au bout de quelques années que chaque fois que je me libérais vraiment d'un poids, que je faisais un pas en avant dans le travail que je faisais sur moi-même, eh bien il y avait des couleurs qui apparaissaient à l'intérieur de moi. J'avais envie de dessiner, j'avais envie de peindre. Et j'ai compris que c'était vraiment le signe. Dans ces moments-là, je savais que j'avais vraiment rangé quelque chose. Et depuis peu, je pratique le massage ayurvédique et je me suis rendu compte que finalement, j'étais créative dans cette pratique du massage parce que chaque massage est unique, je m'adapte à chaque personne et ça m'a un peu ouvert les yeux. Alors, est-ce que c'est juste mon regard sur qu'est-ce que la créativité qui a changé ? Mais finalement, je me rends compte qu'au quotidien, dans ma vie, dans les choix que je fais, en conscience, c'est ma forme à moi de créativité. Donc je ne suis pas une artiste, mais je suis une créative.
Merci beaucoup Virginie pour votre témoignage. Alors Guillaume Lamarre, la peur n'est pas très bonne conseillère en matière de créativité et vous recommandez de terrasser le dragon qui est en nous. D'ailleurs l'image du dragon revient souvent dans votre ouvrage. Hein.
Tout à fait. La peur est une très bonne conseillère. Elle vous indique que vous êtes sur la bonne voie. Plus vous avez peur de faire quelque chose, plus ça veut dire que ça compte pour vous. Donc du coup, plutôt que d'essayer d'y renoncer et de la laisser de côté, il vaut mieux l'écouter et regarder vers quoi elle vous entraîne.
Alors, l'esprit créatif, pour vous, doit cultiver l'imperfection.
Oui.
Et vous prenez appui sur le célèbre basketteur Tony Parker.
Ouais, mais Tony Parker est un bon exemple. Au milieu de sa carrière, quand il est chez les Spurs, il y a un moment où il manquait de régularité en fait dans ses tirs au panier. Et du coup, il a accepté d'avoir un entraîneur personnel et il a remis complètement en question sa technique. Il a dû, c'était même dans la prise de la prise de balle qui se trompait. Donc du coup, il a corrigé ça et il a accepté pendant quelques mois de jouer beaucoup moins bien, d'avoir moins d'efficacité, mais pour un résultat qui a été exceptionnel. Être créatif, c'est produire. Donc ça veut dire c'est se mettre au travail, commencer par un brouillon, quel que soit ce que vous faites, que ça soit de l'écriture, du dessin, de la peinture, de la musique.
De la cuisine.
Voilà, c'est comme dit Stephen King, c'est travailler la porte fermée. C'est-à-dire qu'on travaille sur un brouillon et en général, il peut être le plus sale possible, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est de commencer. Et puis, c'est produire, enfin, c'est-à-dire délivrer à un moment ou à un autre, donc être en mesure de lâcher son ouvrage pour l'offrir au monde.
Pourquoi les rituels sont-ils si importants quand on veut développer son esprit créatif ? Vous conseillez de ritualiser des moments de sa vie professionnelle ou privée ?
Le rituel apporte cette dimension un peu spirituelle. De toute façon, on est empli d'habitudes. C'est très compliqué de se débarrasser d'une habitude. On peut au contraire en créer de nouvelles. Et dans notre quotidien, chaque jour, on peut essayer de sacraliser ces moments. C'est la pratique méditative de base où on essaye d'être dans le moment présent. Et quand on fait quelque chose, on essaye de le faire complètement et de s'y consacrer.
Et l'ennui dans tout ça ?
Et l'ennui est essentiel.
Est-ce que ça favorise l'esprit créatif?
L'ennui est essentiel. Enfin, il faut, on sait plus s'ennuyer dans cette société. Donc,
prenez l'exemple de Stephen King.
Oui, oui.
Un jour, il bloque sur son roman Le Fléau, ouais. Et l'ennui éprouvé lors d'une promenade lui permet d'avancer à nouveau.
Pas qu'une promenade. Pendant des semaines, il va partir marcher dans la nature et il s'ennuie royalement.
Oui, ça l'ennuie.
Ouais, il s'ennuie royalement. Et tout d'un coup, en marchant, de toute façon, quand vous, il y a toujours, encore une fois, on parle de compost, hein, quand on parle de quelque chose qui est en pleine maturation, c'est toujours bon à un moment de laisser tomber sa tâche et de sortir un peu, d'aller s'aérer, de faire autre chose. Et c'est ce qu'il a réussi à faire pour débloquer son écriture.
Et le cofondateur d'Apple, Steve Jobs, était un grand adepte de longues marches pour éveiller sa créativité.
Tout à fait. Et puis surtout, c'était comme ça qu'il toutes les grandes décisions, il les prenait en marchant et c'était là où il avait les plus grandes conversations, que ce soit avec ses concurrents ou avec ses partenaires.
Et pour vous, les idées circulent mieux quand on est en mouvement, marcher, courir, faire du vélo, sauter à la corde?
Moi, j'ai souvent mes meilleures idées quand je suis en train de courir. C'est souvent là où, en fait, on est concentré. Murakami, l'écrivain Murakami est un adepte de ça. Le fait de courir ou le fait de sortir de chez soi, ça permet vraiment de libérer.
Et un poète russe nous dit que la Divine Comédie de Dante est, par exemple, calée sur le rythme de la marche de Dante.
Tout à fait, tout à fait. Lui aussi, il sortait aussi.
Alors, que vient faire la neige pour développer notre esprit créatif? Vous citez un proverbe zen. La neige tombe avec chaque flocon exactement à la bonne place.
C'est pas évident à comprendre, c'est cette idée que...
C'est l'image de la liberté dans la contrainte, en fait.
Exactement. En fait, les flocons de neige ont qu'une seule contrainte, c'est qu'ils doivent avoir 6 branches.
Six pointes.
Et après, à l'intérieur de ça, il y a une expression de... ils font ce qu'ils veulent, mais exactement.
Il y a une infinité de formes différentes possibles.
Exactement.
Et l'esprit créatif est un peu à l'image de ce flocon de neige.
Exactement. On parlait de la contrainte précédemment. C'est essentiel d'avoir un peu de contrainte pour pouvoir... L'Oulipo de Queneau est un bon exemple. Pérec aussi, dans la littérature. C'est-à-dire, en se créant des contraintes, on réussit à être le plus créatif possible.
Et pour terminer, l'esprit créatif se déploie quand on s'amuse.
Ah oui, mais ça c'est un peu, c'est assez évident. On parlait des enfants tout à l'heure. C'est essentiel de s'amuser. Chaplin est un bon exemple de génie créatif dans ce sens-là.
Merci beaucoup Guillaume Lamar d'être venu ce matin. Je conseille vivement La Voix du Créatif, publié dans une petite maison d'édition très talentueuse. Ça s'appelle Pyramide. À suivre tout de suite La Petite Mythologie d'un objet du quotidien d'Éric Libio de l'Express.
Stop. C'est pas ce que je veux maintenant. Ce que je voudrais voir, c'est ma phrase. D'accord? Puis je te rappelle que t'es en audition. C'est pas gagné, mon bonhomme.
Ça fait quoi là? Ça fait 3 semaines qu'on vient ici.
Ouais.
Et il se passe quoi?
Il se passe que j'essaye de t'emmener vers autre chose que ce que tu fais. Ce que j'ai vu là,
connais. Arrête. J'ai fait une école de danse, moi, ou pas? J'ai fait de la danse classique, j'ai fait du contemporain. Est-ce que j'ai fait ça? Est-ce que je t'ai dit que j'avais fait ça? On est là à vouloir se taper le corps, à faire des choses qui sont même pas organiques, y a rien qui se passe.
Mais le problème, c'est que t'as les jetons. T'as peur.
Non, j'ai pas peur. C'est ça que t'as pas capté. J'ai pas peur de tout ça.
Alors fais-le, arrête de parler, tu parles trop, fais!
Grand bien vous fasse.
Et chacun son karma.
Sur France Inter.
Éric Libio de l'Express, quel objet sortez-vous de votre chapeau magique? Petite mythologie d'un objet.
Eh bien, vous allez voir, parce qu'aujourd'hui nous sommes vendredi et après-demain dimanche, et de deux choses l'urne, l'autre est le président. Oui, je paraphrase Jacques Prévert, disparu il y a 40 ans, le 11 avril 1977, qui écrivait joliment dans son recueil Paroles, de deux choses l'une, l'autre est le soleil. En parlant de paroles d'ailleurs, il y en a eu autant que de feuilles mortes à l'automne pendant cette campagne présidentielle, et elles aussi, elles se ramassent à l'appel du vote. Évidemment, oui, je paraphrase encore Jacques Prévert. Mais ça y est, dimanche, ceux qui vont voter iront glisser un bulletin dans l'urne, une urne qui deviendra funéraire pour certains, ceux qui resteront sur le carreau. Non, là, je ne paraphrase pas Jacques Prévert. Vous me direz qu'une urne, comme objet du quotidien, ça se pose un peu là, surtout sur la cheminée d'ailleurs. Mais ce n'est pas tous les jours dimanche et ce n'est pas non plus tous les jours d'élection. En fait, je ne connais pas de gens qui décorent leur salon avec des urnes électorales. Vous, peut-être, Ali, je ne sais pas. Un peu encombrant comme objet, du genre à se taper les orteils dessus, un peu trop parallélépipédique.
Il y est arrivé.
Et j'y suis arrivé, c'est difficile, même si ça rapporte pas de points au Scrabble. Et c'est sans doute dommage, car la démocratie participative s'éprouve d'abord chez soi, finalement. Mais si l'on veut bien y regarder de plus près, l'objet du quotidien qui s'apparente le plus à l'urne électorale, c'est finalement la tirelire. Objet percé d'une fente dans laquelle on glisse une pièce de monnaie ou n'importe quoi d'autre, en fait. Alors au lieu d'économiser de l'argent, la tirelire pourrait ainsi servir à économiser des malentendus et du temps perdu, à savoir comment oublier ses heures, qui tuait le temps, etc., etc. Non, là j'ai cité Jacques Brel, Ali, et non pas Jacques Prévert. Et donc utiliser la tirelire pour voter en famille ou entre amis, ça marche aussi. Voter pour tout et n'importe quoi, voter pour la couleur du mur à repeindre, voter pour la cuisson de la côte de bœuf, voter pour la chaîne de télé à regarder, pour le tour de vaisselle à faire, le couvert à mettre, le thème de la discussion du soir, l'histoire à raconter, et voter enfin pour le prénom du raton laveur. Oui, un raton laveur, comme dans un inventaire à la Prévert, car la tirelire est un grand ennemi, la finance. Il est donc temps de détourner la tirelire de sa fonction originelle, comme il est peut-être temps de détourner tous les objets de leurs habitudes. Soyons créatifs, ainsi que l'intime Guillaume Lamarre aujourd'hui, et je suis bien d'accord avec lui. Imaginons un wagon doré tournant tout autour de la Terre. Imaginons une maison fuyant devant l'hiver. Imaginons la lune et les étoiles sur un bateau à voile. Oui, là, je cite encore Jacques Prévert, Ali. D'ailleurs, dans un poème d'un certain Jacques Prévert, « Les animaux ont des ennuis », l'auteur écrit « Laissez les petits-enfants briser leur tirelire, laissez le café passer si ça lui fait plaisir. » Eh bien, moi, ça me fait plaisir de laisser passer le café et que les petits enfants brisent leur tirelire, non pas pour récupérer l'argent qui n'y est pas, mais pour laisser s'envoler l'oiseau comme on ouvre une cage. Oui, là, je paraphrase Pierre Perret et non pas Jacques Prévert. Alors dimanche, si vous allez voter, déposez dans la tirelire le bulletin que vous voulez, évidemment, mais faites juste attention à ne pas ouvrir les portes de la nuit. Oui, Ali, Jacques Prévert, encore et toujours.
Merci Éric Libiot de l'Express, la petite mythologie d'un objet. C'est tous les vendredis dans Grand Bien vous fasse. À la technique ce matin, Philippe Duclos et Élise Christophe. Muriel Pérez a signé l'excellente programmation musicale. Merci à la documentation de Radio France. Lundi, nous recevons les docteurs Christophe Trival et Sauveur Boucris qui nous délivreront quelques conseils de prévention pour vivre plus longtemps. Nous aiderons à faire rimer bien vieillir avec plaisir en s'appuyant sur des données scientifiques. Nous attendons toutes vos questions santé au 01 45 24 7000 lundi dès 9h et par courriel grandbienvousfasse@radiofrance.com. À suivre Nagui et sa bande originale qui reçoivent Marc Lévy.